matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Et dans un instant, Bernard Lehu nous expliquera pourquoi le célèbre roman de George Orwell, 1984, est au cœur de l'actualité et pourquoi ses ventes s'envolent, notamment en France. Pop et musique classique réunis dans un même spectacle musical. C'est Odino à l'affiche du Théâtre Bobino à Paris. Et bientôt en tournée, c'est drôle, beau et inventif, nous dira Steven Bellery. À la télévision ce soir, Arte diffuse les 3 épisodes de la mini-série Héroïne avec Roman Boringer. Ce sera l'un des choix d'Isabelle Morini-Bosque. Nous retrouverons les Express de Charlotte Arrigoni. Et puis si vous passez par Paris pendant les vacances, vous pouvez découvrir le grand musée du parfum qui vient d'ouvrir ses portes, rue du Faubourg Saint-Honoré. Une expérience sensorielle à ne pas rater. Monique Younes l'a testé pour nous.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Bernard Lehu, c'est un effet inattendu de l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. Les ventes de 1984, le célèbre roman de science-fiction du Britannique George Orwell, s'envole aux États-Unis et ailleurs dans le monde, y compris en France.
Oui, alors avant de voir pourquoi, il est peut-être bon de rappeler ce que raconte 1984. George Orwell le publie en 1949. Nous sommes en pleine guerre froide. La planète vit dans la hantise d'une guerre nucléaire. Un contexte qui inspire fortement le roman dans 1984. Le monde est partagé entre 3 grands en bloc, l'Océania, l'Eurasia et l'Estasia, 3 régimes totalitaires en conflit permanent. Océania est dirigé par le chef du parti unique, Big Brother, le grand frère, qui pratique une surveillance permanente de la population grâce à des écrans et à des caméras omniprésentes.
Alors, aux dernières nouvelles, et à ce que je sache, l'Amérique de Trump n'est pas un régime totalitaire.
Certes.
Quel rapport entre son arrivée au pouvoir et le regain d'intérêt pour le terrifiant roman d'anticipation d'Orwell ?
Eh bien, parce qu'il y a une troisième dimension dans 1984, où, outre la mise en garde d'Orwell contre le totalitarisme et ce contrôle généralisé d'un monde moderne technomaniaque, le livre dénonce la manipulation des faits, le travestissement de la vérité. Le héros de 1984, Winston Smith, est employé au ministère de la vérité chargé de remanier les archives historiques et d'établir la vérité officielle du parti. Ainsi, on peut lire pages 283 et 284, dire des mensonges délibérés tout en y croyant sincèrement, oublier tous les faits devenu gênant. Si les faits disent autre chose, les faits doivent être modifiés. Et George Orwell d'imaginer de créer la notion de faits alternatives, alternative facts en anglais.
Et je repose donc ma question, quel rapport avec Donald Trump ?
Eh bien, on y vient. Au lendemain de l'investiture du président, le porte-parole de la Maison Blanche assure contre toute évidence qu'on n'a jamais vu une foule aussi importante à Washington. 2 jours plus tard, alors que vous vous souvenez des photos,
oui,
qui faisaient la comparaison avec
personne.
L'investiture d'Obama, où là, il y avait foule. 2 jours plus tard, le 22 janvier, l'une des proches conseillères de Trump, Kellyanne Conway, est interviewée en direct sur la chaîne NBC à propos des affirmations mensongères du porte-parole, et ça donne ça.
La première fois qu'il s'adresse au public, c'est pour raconter des mensonges. Pourquoi a-t-il fait ça? Ça décrédibilise tout le service de presse de la Maison Blanche.
Ne soyez pas si dramatique. Vous parlez de mensonges, mais Sean Spicer, notre porte-parole, a donné des faits alternatifs.
Des faits alternatifs? Mais 4 des 5 points qu'il a évoqués n'étaient pas vrais. Les faits alternatifs ne sont pas des faits, ce sont des mensonges.
Et voilà, involontairement, la conseillère reprend le concept de fait alternatif de 1984 et défend le principe d'une réalité parallèle dans laquelle la vérité deviendrait une simple question d'opinion et non une donnée objective. Alors aussitôt, les médias et les réseaux sociaux en Amérique relèvent la référence au roman de George Orwell qui tout à coup devient d'une actualité saisissante. Anne Assous, la directrice de Folio, l'éditeur français de 1984.
C'est un roman finalement dont le cœur et surtout la manipulation des faits et de l'information. C'est vraiment le cœur du livre, au-delà du communisme et du monde moderne. C'est comment travestir une réalité pour finalement arriver à un discours et une démonstration que l'on souhaite. Et on est exactement en plein cœur de ce qu'on a vécu, de ce qu'on vit aux États-Unis actuellement.
Alors, dans les heures qui viennent, l'interview de la conseillère de Trump sur NBC, eh bien, les heures qui suivent cette interview, oui, les ventes de 1984 flambent aux États-Unis. Le roman se classe numéro 1 sur Amazon et l'éditeur est en rupture de stock. Le phénomène se propage à d'autres pays, y compris en France, à Nassus, chez Folio.
Oui, en effet, depuis la troisième semaine de l'année, les ventes de 1984 ont été multipliées par 2,5. Donc, ce sont les faits réel et précis. sans mentir, sachant que ce sont toujours des ventes assez soutenues pour ce roman qui est très prescrit dans les écoles. Donc on part de niveaux de vente assez élevés déjà, autour de 80 000 exemplaires par an.
Des ventes multipliées par 2,5, ce n'est pas rien, surtout près de 70 ans après la parution de 1984.
Et voilà, et comment Donald Trump, dont ça ne semble pourtant pas être la tasse de thé, devient ainsi, sans le vouloir, le promoteur de la littérature, on le félicite. Et morale de l'histoire, le regain d'intérêt spectaculaire pour le chef-d'œuvre de George Orwell prouve une fois de plus le pouvoir qu'ont les livres d'apporter des réponses aux questions et aux inquiétudes soulevées par le temps présent.
Steven voulait ajouter un petit quelque chose.
Une autre conséquence inattendue, par exemple, le New York Times a vu le nombre de ses abonnés explosait de 300 000 depuis quelques mois. C'est un effet Trump, on recherche une information de qualité.
Eh bien, après les effets Trump, dans quelques instants, on se préoccupe de nos audiences télévisées avec Médiamétrie et Isabelle Morini-Bosque. Dans quelques secondes, à tout de suite, restez avec nous.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Voilà, dans ces cas-là, soit je chante une petite chansonnette, je ne sais pas si c'est vous qui me dites, je n'arrive même pas à voir son regard.
Si.
Sommes-nous prêts?
J'attendais le jingle, il est passé, je n'ai pas fait d'influence.
Voilà.
Ça y est, j'ai attendu. Bah, écoutez, je suis surprise, TF1 brise la malédiction, puisque Grey's Anatomy est en tête hier soir, de très peu certes, mais près de 4 200 000 téléspectateurs, c'est donc un peu plus que donc, Fais pas ci, fais pas ça sur la 2,
voilà.
Qui rassemble 3 805 000 personnes et 15% du public sur France 2. C'est donc bien pour les deux. On est contente pour eux. Et en troisième position, des Racines et des Ailes. Magnifique reportage sur le Tour du Mont Blanc. Près de 2 800 000 téléspectateurs. Bon, c'est pas énorme, mais ça n'est pas mal.
Un reportage sur le jambon d'Aoste.
Oui,
c'était beau.
Tout à fait.
Oui, oui. J'adorais. Bon, pardon.
Je suis d'accord avec vous. Et alors, côté TNT, c'est C8 avec C'est que du kiff TPMP qui rassemble 1 500 000 téléspectateurs hier. Bon, voilà. Là, et bien, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur les audiences d'hier.
Bah, tant mieux, parce que maintenant, on va retrouver Charlotte.
Les Express LVT.
Bonjour, Charlotte.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Bonjour Charlotte.
Jetons donc un œil pour commencer aux sorties de la semaine dans les salles. Les comédies françaises ont-elles attiré les foules?
Eh bien oui, le succès se confirme. Le film Alibi.com 2 et avec Philippe Lachaud a rassemblé pour sa première journée 180 000 spectateurs, soit le même démarrage que Red Dingue il y a 15 jours. De son côté, Rock'n'Roll 2 et avec Guillaume Canet en a séduit 101 000, ce qui est également un très bon début.
Un soutien de poids pour la flèche de la basilique de Saint-Denis.
Le gouvernement a donné hier son feu vert au projet de reconstruction de cette flèche haute de 86 mètres et qui constitue un monument inestimable de l'histoire en tant que nécropole des rois de France. Élevée au début du XIIIe siècle, elle avait été démontée après une tornade en 1846. Le coût des travaux est estimé à 13 millions d'euros.
Des précisions ce matin sur le jeu que va lancer France 2. En fin d'après-midi, hein, c'est pour remplacer Actuality.
Faute d'audience, l'émission présentée par Thomas Touroud va être arrêtée et donc, dès le 6 mars prochain, la chaîne publique va proposer aux téléspectateurs à 18h « Tout le monde a son mot à dire », un jeu animé par Sidonie Bonnec et Olivier Mine. Alors de quoi s'agira-t-il? Les explications de ce duo inédit.
On va se régaler avec la langue française, avec les mots, les expressions, les noms de livres, de films, de pièces de théâtre, avec deux candidats qui seront épaulés chacun par deux humoristes comédiens et avec Olivier Mine et Sidonie Bonnec pour vous faire du bien, vous faire rire et vous apprendre des choses.
C'est pas mal, ça met la barre très haut. Qu'ajouter à ce qu'elle vient de dire, car elle a donné l'essence même de ce qu'est le programme. J'aime bien l'idée que vous envisagiez ce duo comme inédit plutôt que comme un duo improbable.
Sidonie Bonnec et Olivier Mine, à votre micro RTL, Isabelle Morini-Bosque.
Sidonie, qu'on retrouve ce soir à 20h avec Thomas Hugues, bien entendu, sur RTL. Oui. Alors, un chercheur pense avoir découvert les premières images filmées de Marcel Proust.
Jean-Pierre Sirois-Trahan, professeur à l'Université de Laval, à Québec, a mis la main, effectivement, sur un film muet d'une minute et 11 secondes, datant du 14 novembre 1904. L'enregistrement en question présente le mariage d'un ami proche de l'écrivain et à la sortie de l'église de la Madeleine à Paris, apparaît donc un homme en redingote à la silhouette svelte avec une petite moustache noire et un chapeau melon sur la tête. Pour le chercheur, cela ne fait aucun doute. Il s'agit de Marcel Proust, alors âgé de 33 ans. Une vidéo à retrouver, bien sûr, sur notre site rtl.fr.
Ça va très vite, hein. On le voit vraiment.
Oui, c'est furtif.
3 ou 4 secondes où il descend l'escalier de l'église de la Madeleine à toute vitesse.
Et une petite dizaine d'années, en gros, avant la recherche du temps perdu.
Ça, c'est drôle.
Monique Younes a enfin compris.
On l'apprend ce matin. Michel Tournier, auteur de Vendredi et du Roi des Aulnes, ne fait son entrée dans la Pléiade, la plus prestigieuse collection littéraire francophone. L'écrivain, prix Goncourt 1970, est mort en janvier 2016 à l'âge de 91 ans.
La chanteuse Shania Twain, bientôt de retour.
Et pour ceux qui auraient oublié, Shania Twain, en 2009, cartonnait avec ça. Oh, Et bien près de 20 ans après Men I Feel Like a Woman, la chanteuse canadienne de 51 ans s'apprête à revenir avec un cinquième album. Il est attendu au printemps prochain. C'est elle qui l'a annoncé au magazine Rolling Stone. Dans cet entretien, elle explique avoir souffert de dysphonie, ce qui a repoussé la sortie de ce disque.
Merci beaucoup Charlotte, c'était les Express de Laissez-vous tenter. Alors une idée de sortie à présent, vous aimez la pop, vous aimez aussi la musique classique, et bien vous allez adorer Odino. Le spectacle est à l'affiche du théâtre Bobino à Paris, il met en scène 25 musiciens classiques qui revisitent des tubes pop. Stephen Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez vu Odino pour nous?
Odino, ça n'est pas tout à fait un concert, c'est un peu plus qu'un spectacle, c'est pop, mais personne ne chante. Odino, ça ne rentre dans aucune case, et pour cause, ça bouscule un petit peu les codes.
S'il vous plaît, c'est bon?
Oui,
ok,
oui.
Tout le monde est accordé?
Oui, oui.
Super. Vous voyez le rideau? Il va s'ouvrir. Mais c'est pas que le rideau qu'on doit ouvrir, c'est l'orchestre. C'est l'orchestre qu'il faut partager, qu'il faut transmettre, parce que c'est sublime un orchestre. Ok? Alors, vous aurez peut-être...
Le chef d'orchestre Sylvain Odinovski joue les maîtres de cérémonie. Il s'adresse à ses 25 musiciens. Pendant 1h30, ils vont interpréter une vingtaine de morceaux, des titres pop et quelques airs classiques, avec la même rigueur que s'ils jouaient un opéra. On joue aux devinettes, vous êtes prêts autour de la table?
C'est parti. Ouais.
Allez, le show débute avec ça.
Les Beatles, Eleanor Rigby.
Oh là là, oh là, là.
L'orchestration.
...1966, vous avez reconnu, bravo Yves. On fait un bond de 22 ans, reconnaissez-vous ceci?
Bravo.
C'est Smooth Criminal, Michael Jackson. Dans Odino, on entend aussi ce tube d'un duo français. Grand écart en une pop symphonique, l'envie eh bien, de montrer l'envers d'un orchestre.
Et d'ailleurs, dans Odino, on apprend plein de choses, Steven.
Ouais, Sylvain Odinovski anime le concert, drôle, inventif, il joue les professeurs, fait chanter les notes au public.
Plus vite!
Sort une baguette lumineuse, invite un musicien à taper sur une enclume, fait chantonner trois violonistes, jette ses partitions en l'air et convie trois personnes du public à intégrer l'orchestre pour une version du galop de Stravinsky. Ouais.
Pas du tout. Mais c'était là, voyons. Enfin, je crois bien que c'est ce qui est marqué dans la partition, n'est-ce pas?
Bah oui.
Mesure 4. 1, 2, 3... Ben voilà, il y en a un qui suit, c'est lui.
Alors, au bout de quelques minutes, le morceau prend forme, je vous rassure, le chef d'orchestre aide les novices à respecter la mesure à l'aide d'une balle de tennis lancée en l'air. Au moment où elle retombe dans sa main, signifie qu'il faut jouer la note, c'est astucieux. On rigole, on vibre, on apprend. C'est ce genre de situation que Sylvain Odinovski rêvait de vivre quand il a créé Odino.
Le classique n'a pas de limites, et c'est ce qu'on essaye de montrer. Les limites, ce sont les hommes qui les placent. Mais la musique ne demande pas ça. Vous savez que quand Mozart venait à Paris, il écrivait à sa famille le plaisir qu'il avait de voir la salle réagir pendant ses symphonies. Donc voilà, il y a toujours eu de la place, en fait, pour l'esprit, pour la fantaisie, pour l'invention. C'est pas parce que c'est une chanson, je dirais, de Piaf ou de Daft Punk que c'est facile à jouer. Parce que, si vous voulez, nous, on a tout retiré de la chanson. On a enlevé le chanteur, on a enlevé les paroles, on a enlevé la danse. On a enlevé le clip, l'image, le marketing. Il reste quoi? Il reste les notes de musique, l'harmonie, le rythme. Et ces notes-là, ce sont les mêmes chez Bach et chez Michael Jackson. Donc au fond, on les joue avec le même amour, la même passion, la même exigence. C'est un travail extrêmement précis. Ce sont des musiciens qui peuvent jouer vraiment partout, dans tous les orchestres d'Europe. Alors est-ce que ça a été difficile de le recruter? Ça a pris du temps. Nous, on veut rencontrer des personnes, des gens qui adhèrent à nos valeurs d'ouvrir l'orchestre.
Piaf.
Bravo, l'hymne à l'amour.
Enfin, je reconnais ça.
C'est l'un des jolis moments du spectacle. Odino, c'est à l'affiche de Bobino à Paris jusqu'au 29 avril. Les prix de 21 à 51 euros. Une tournée est prévue cet automne.
Et maintenant, on aura un petit bonus.
Ah là là.
Dancing Queen. On a passé un très bon moment, merci.
Oui,
non,
oui,
elle a pas dit oh là là, elle a dit ah bah. Mm. Écoutez, je nomme sur Raphaël Nivois qui me fait des commentaires au casque. Dites-moi, on va parler de télévision donc maintenant, après avoir remercié Steven Bellery. Vous vous intéressez d'abord au destin de quatre femmes ce soir sur Arte.
Oui, quatre femmes d'une banlieue parisienne ravagée par le chômage. Alors dit comme ça, ça donne pas forcément envie un jeudi soir.
Non.
Mais ces quatre femmes dans la galère se battent vraiment, puisque pour retrouver dignité et sécurité financière, elles vont se lancer dans l'organisation de combats de catch féminin, mouillant le maillot au sens propre. C'est bourré de vie, de santé, de force, de farce, de fesses. Avec notamment Nathalie, Marie de Narnaud, qui, malgré la fermeture locale de l'usine de lingerie, organise des défilés en petite tenue, mais en grande forme.
Déjà, on s'intéresse plus.
Et oui, en grande forme. Elle y croit encore, surtout qu'il y a tous les formats de jeunes femmes. Hein. Elle y croit encore, elle qui avait signé un contrat de styliste en soutien-gorge Zéculotte le jour de la fermeture même de l'usine. La voici, justement très culottée, face à sa banquière.
Elle est là, ma collection. Regardez, tout ça, c'est moi.
Je vois bien, oui. Mais qui achète ça, concrètement?
Mais tout le monde peut acheter. Vous pouvez acheter. Tenez. Hop. Celui-ci, vous irez bien. Vous, vous faites quoi? Un 85C. D?
C.
Vous portez du rouge?
Écoutez.
Parce que rouge sur une brune, ça vibre instantanément. Sur moi, ça ferait ukrainienne, mais bon, sur vous, c'est autre chose.
Mademoiselle Blanc, je vois vous vous démener, mais ici, ça suffit pas. OK?
Le jour où le directeur de Voltanel a validé ma collection, l'usine a fermé. Vous croyez pas que je suis assez punie comme ça?
J'ai besoin de garanties. Ici, on n'est pas au SAMU social.
Vous allez voir, elle a la tête vraiment près du bonnet. C'est. On peut ne pas être fasciné par une réalisation sautillante, un propos politiquement militant qui alourdit un peu l'intrigue, mais on adore ces trois mousquetaires. Céline, Romane Bourringer, l'épouse frustrée, qui va découvrir sur le ring ce qu'est un vrai corps à corps. Agathe, la femme de ménage malienne qui dépoussière le catch féminin. Selma, la jeune femme marocaine qui n'en peut plus d'être enceinte et qui est tentée par le Front National. Et donc la pétulante Nathalie qui, là, tire les cartes à ses copines.
Là, on a un changement radical, déterminant. Et tu... Pardon, t'as un amant? Non mais sérieusement, la force là, au milieu, c'est l'énergie sexuelle. Et ça, ça pourrait être une autre personne.
Eh ben, c'est peut-être Pierre.
Pierre.
Pierre avec une autre personne.
Pierre avec une maîtresse.
Le jour où il a une maîtresse, moi je mange du porc.
Pierre, quand il te regarde, il est ébloui, on dirait qu'il a vu la Vierge.
Et alors, ça te plairait toi d'être regardée comme la Vierge?
Je risque pas.
Voilà, ça s'appelle donc Héroïne. C'est une série logiquement primée à Luchon, au Festival de la création télévisuelle. Trois épisodes sur Arte, c'est pas raté. Cette histoire de dessous peut justement vous laisser sans dessus-dessous.
Alors vous avez été aussi ému par un reportage d'envoyé spécial sur les abattoirs.
Oui, France 2, il est passionnant et très honnête parce qu'il traite évidemment de la souffrance animale, avec la Ligue L214 qui lutte précisément contre la souffrance animale, mais aussi des conditions d'abattage et aussi des conditions surtout de travail et du stress de ceux qui bossent dans cette filière et qui se découvrent torsionnaire dans le regard du grand public. Depuis, les caméras cachées, certes nécessaires, ils sont montrés du doigt, suivis par des psys. Certains basculent de l'autre côté, comme cet employé saturé de sang qui a fourni à la Ligue L214 des images de boucherie, notamment de veaux jetés de côté. Ça se passait à Limoges. Le patron de cet abattoir témoigne très courageusement face caméra et l'équipe montre à un autre patron d'un autre abattoir dit exemplaire équipé de caméras cachées à Oudan les images d'un employé frappant quasiment à mort un cochon refusant d'avancer.
J'ai pas vu les images, parce que là, bien sûr, il y aurait quelque chose. C'est choquant, oui. Ça, c'est choquant. Moi, ça me choque, oui. Là, il y a une souffrance réelle. Moi, j'ai pas ces images-là. Si j'avais vu ça, là, c'est sûr que ça se passerait pas bien. Là, il met des chocs électriques. Là, il s'acharne sur le cochon. Là, ça sert à rien. C'est gratuit, ça. Et quand il y a un cochon tout seul qui veut refuser, il faut le laisser et en ramener d'autres. Là, le gars, il a du mal. Il est en excès de colère. Le problème, c'est la colère. Hein. Et quand les animaux veulent pas, c'est là le problème. Et là, il est plus dans son état.
Alors on découvre à l'écran qu'il n'est pas complètement blanc-bleu. La suite sur France 2 ce soir à 20h55. En France, 50 000 ouvriers abattent chaque jour 3 millions d'animaux.
Merci Isabelle. Dans quelques instants, on retrouve Monique Younes qui nous emmène au Grand Musée du Parfum.
Ça sent bon.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Chère Monique Younes, vous conseillez à ceux qui sont en vacances ou de passage à Paris de visiter le Grand Musée du Parfum qui vient d'ouvrir ses portes rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est dans l'ancienne maison de couture de Christian Lacroix. Et vous m'avez dit que c'est une découverte particulière du parfum. Qu'entendez-vous par là?
C'est une découverte spatio-temporelle et sensorielle. Alors, visiter le Grand Musée du Parfum ne sera pas seulement une façon de vous transporter en Orient. Vous voyagerez aussi dans le temps à la découverte de la préhistoire et de l'histoire du parfum, de sa mythologie. Vous apprendrez comment le parfum fut longtemps le meilleur moyen de communiquer avec les dieux avant de devenir l'argument de séduction par excellence entre les mortels.
Je sens que vous allez nous parler de Cléopâtre.
Incontournable Cléopâtre, son histoire est racontée au Grand Musée du Parfum.
Exactement.
Alors quand pour séduire le général romain Marc-Antoine, Cléopâtre imprégna les voiles de son navire d'odeur de jasmin, son parfum préféré, pour que Marc-Antoine la sente arriver avant même de la voir. Elle savait s'y prendre, la reine d'Égypte, non? Alors, dans un autre genre, vous apprendrez que Louis XIV, écœuré par les parfums de sa maîtresse, la Montespan, finit par la renvoyer de Versailles.
Que ça va dans les deux sens, les odeurs.
Exactement. Et au Grand Musée du Parfum, vous allez pouvoir découvrir plus de 70 odeurs de manière ludique et interactive. D'abord, grâce au Jardin des Senteurs. C'est une sorte de jardin de fleurs géantes, blanches, en silicone, qui diffuse à votre approche une odeur qu'il faut reconnaître. Alors, j'ai fait le test avec le directeur du Grand Musée du Parfum, Guillaume de Motion.
Voilà, ça s'allume et pendant que ça diffuse, je ne sais pas si vous la reconnaissez, l'odeur du poivre.
Non. Ici, c'est quoi?
L'odeur ici, ça, c'est du feu de bois. Non?
J'ai l'impression que j'ai le nez bouché. Mais est-ce que vous vous sentez?
Moi, oui. Alors là, vous ne connaissez pas? Basilic. C'est... Par exemple, voyez, alors forcément, on fait sentir les odeurs interdites. Allez, on appuie sur cannabis.
Ah, tiens, le cannabis.
Allez.
Ça sent quoi, ce cannabis?
Ça sent effectivement le cannabis, mais on sent que c'est un cannabis de parfumeur. C'est-à-dire qu'il est, il est extraordinaire. On pourrait presque se parfumer avec celui-là.
Et l'absinthe? Ah oui, là, je sens.
Alors, vous savez que les parfumeurs sont toujours très élégants, donc ils expriment les choses avec toujours beaucoup de délicatesse. Et donc, le boudoir libertin, je vous laisse imaginer.
Alors, je ne saurais pas vous dire quelle est l'odeur du boudoir libertin, parce que j'étais complètement anosmique ce jour-là.
C'est invraisemblable. Oui. Alors, mais vous gênerez avec ça, c'est de connaître, de découvrir l'odeur du boudoir libertin. Petite leçon de vocabulaire au passage.
Oui, parce que l'anosmie, c'est la perte de l'odorat. Et certains rhumes sévères vous rendent anosmique. Mais quand on ne l'est pas anosmique, on ne sent pas tous les mêmes odeurs, imaginez-vous. Non. Je peux sentir une odeur que vous ne sentirez jamais. Mm-hmm. Allez faire les tests au Grand Musée du Parfum, c'est très intéressant et très instructif aussi. La découverte des 25 matières premières les plus utilisées par les parfumeurs. On les sent grâce à des boules accrochées à l'extrémité d'une branche. C'est d'une étrangeté ineffable et d'une élégance parfaite.
Et donc, on prend cette sphère. Vous pouvez la sentir.
Le cachemiron.
Voilà.
C'est probablement le bois imaginaire favori du parfumeur. Imaginaire, car il n'existe nulle part dans la nature.
Voilà, et donc vous pouvez écouter l'histoire de ces 25 matières premières emblématiques. On peut essayer de retrouver ses préférences olfactives, de collectionner toutes les odeurs que vous aimez, de sorte que vous allez mieux comprendre et mieux exprimer la nature des odeurs qui vous plaît.
Alors ensuite, vous pourrez épater votre parfumeur préféré en lui demandant un parfum, par exemple, à base d'iris avec un peu de grandiflorum, zeste de calonne et du muscade sur une base de fèves tonka, par exemple.
Ça ne fait pas un peu beaucoup de mélange, tout ça?
Ah, il y a des compositions plus ou moins harmonieuses, je vous l'accorde. Mais la composition d'un parfum n'a rien à voir avec cette soupe d'odeurs qu'on peut sentir au rayon parfumerie des grands magasins. Là, vaut mieux être anosmique si on ne veut pas tourner de l'œil. Au Grand Musée du Parfum, vous ne serez jamais incommodé par ce genre de choses, car ce ne sont que des odeurs sèches, sans alcool. Chaque odeur se révèle distinctement. Et puis, il y a le parcours, dans le parcours, un moment très poétique, c'est la réinterprétation de l'orgue du parfumeur. Alors, vous entrez effectivement dans une salle sombre, et musiciens et parfumeurs ont imaginé ensemble une musique spécifique pour chaque parfum, donc dans une salle noire, des faisceaux lumineux semblant tomber du ciel viennent se poser sur une fragrance de l'orgue et font jaillir une note puis une autre et ça devient de la musique. Le parfum floral aurait donc cet air-là, paraît-il.
Être envoûtant. Hein.
Ah, et on est transporté dans un ailleurs très, 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 très douillet. Là, voilà, si vous avez envie de vous instruire en vous amusant, de voyager sans trop vous déplacer, rendez-vous au Grand Musée du Parfum. Il y a aussi un bureau des parfumeurs où, à travers de courtes vidéos, 10 des plus importants parfumeurs français vous expliquent comment et où se parfumer, s'il y a vraiment des parfums pour hommes et des parfums pour femmes. Bref, vous trouverez une réponse à tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le parfum.
Nous voilà au parfum.
Oui, et puis surtout un très beau reportage effectué par une journaliste qui ne sent rien. Et ça, quand même, il fallait le faire. Merci, Monique.
Ce jour-là.
À tout de suite, c'était très réussi. Camarade de Bobino, ça.
Exactement.
Vous rappelez le nom. Et ben voilà, vous rappelez le nom du spectacle.
Odino à Bobino.
Odino à Bobino.
C'est jusqu'au 29 avril.
C'est un très bon moment.
Vous savez quoi ? Avec un petit peu d'avance, on va accueillir Julien Courbet.
Ah oui, parce que là,
en plein conciliabule avec toute son équipe.
Je me délecte instants. De cette version de Daft Punk au violon. C'est Gérard Louvain qui produit ça.
Exactement, c'est Gérard
Louvain. Il y a ça, il y a plein d'autres morceaux.
Ah mais oui, c'est vrai.
Mais oui, je crois qu'il y a un philharmonique qui reprend Balibalo. Il y a des trucs extraordinaires, mais vraiment à voir.
Et Tonton Cristobal.
Et Tonton Cristobal, ah oui. Évidemment. Ah. Imaginez avec ouais. Bon, mais écoutez, nous, c'est la porte ouverte aujourd'hui. Oui. Vous le savez, à toutes les fenêtres.
Ah bon,
donc, vous téléphonez au 3210 et les gens passent directement sur l'antenne. Donc, si vous avez là, ou autour de la table, oui. L'un de vous, de laissez-vous tenter un problème, dites-le tout de suite ou taisez-vous à jamais.
Ah oui.
Bon, ils n'ont pas de problème, visiblement.
Bah non, nous, on va très bien. Hein. Vous savez pourquoi on vous écoute ?
Je suis en train de faire le tri.
Bon, ouais. On va faire une spéciale Morini Boss dans peu de temps. Alors. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.
Bonne émission.
Amusez-vous bien. Demain matin. Mesdames et messieurs, c'est parti. Le jeudi est un jour particulier. En direct où chacun a sa chance.
Le jeudi, c'est journée portes ouvertes.
Appelez le 3210 RTL.
Car nous ne prenons que des cas qui arrivent au standard au moment où je vous parle. Et depuis 9h ce matin, parce qu'il fallait bien un premier cas pour ouvrir. Donc, nous allons accueillir Gilles dans une seconde. Gilles est déjà là. Gilles, bonjour.